fall into big savings, all in the Kroger app.
Get packs of juicy red, green, black, or tri-color variety seedless grapes for $3.99 each. Then get tender boneless chuck roast or steaks for $4.99 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Le diable du Horla. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Nav Prusa, le Horla par Guy de Maupassant. Le diable. Le paysan restait debout en face du médecin devant le lit de la mourante. La vieille, calme, résignée, lucide, regardait les deux hommes et les écoutait causer. Elle allait mourir. Elle ne se révoltait pas. Son temps était fini. Elle avait 92 ans. Par la fenêtre et la porte ouverte, le soleil de juillet entrait à flots, jetait sa flamme chaude sur le sol de terre brune, onduleux et battu par les sabots de 4 générations de rustres. Les odeurs des champs venaient aussi, poussées par la brise cuisante, odeur des herbes, des blés, des feuilles brûlées sous la chaleur de midi. Les sauterelles s'égosillaient, emplissaient la campagne d'un crépitement clair, pareil au bruit des criquets de bois qu'on vend aux enfants dans les foires.
Le médecin, élevant la voix, disait « Honoré, vous ne pouvez pas laisser votre mère toute seule dans cet état-là. Elle passera d'un moment à l'autre. » Et le paysan, désolé, répétait « Faut pourtant que je rentre mon blé. V'là trop longtemps qu'il est à terre. Le temps est bon, justement. Qu'est-ce que t'en dis, mamie ?»
Et la vieille mourante, tenaillée encore par l'avarice normande, faisait oui de l'œil et du front, engageait son fils à rentrer son blé et à la laisser mourir toute seule. Mais le médecin se fâcha et tapant du pied « Vous n'êtes qu'une brute, entendez-vous ? Et je ne vous permettrai pas de faire ça, entendez-vous ? Et si vous êtes forcé de rentrer votre blé aujourd'hui même, allez chercher la rapée parbleu, et faites-lui garder votre mère. Je le veux, entendez-vous ? Et si vous ne m'obéissez pas, je vous laisserai crever comme un chien quand vous serez malade à votre tour, entendez-vous ? »
Le paysan, un grand maigre au geste lent, torturé par l'indécision, par la peur du médecin et par l'amour féroce de l'épargne, hésitait, calculait, balbutiait.
« Comment qu'il prend la rapée pour une garde ?»
Le médecin criait. « Est-ce que je sais, moi ? Ça dépend du temps que vous lui demandez. Arrangez-vous avec elle, morbleu, mais je veux qu'elle soit ici dans une heure, entendez-vous ? »
L'homme se décida. « J'y vais, j'y vais. Vous fâchez point, monsieur le médecin. »
Et le docteur s'en alla en appelant. « vous savez, prenez garde, car je ne badine pas quand je me fâche, moi. » Dès qu'il fut seul, le paysan se tourna vers sa mère et d'une voix résignée.
« Je vois qu'il la rapait puisqu'il veut, cet homme. Déluge point tant que je revienne. »
Et il sortit à son tour. La rapée, une vieille repasseuse, gardait les morts et les mourants de la commune et des environs. Puis, dès qu'elle avait cousu ses clients dans le drap dont ils ne devaient plus sortir, elle revenait prendre son fer dont elle frottait le linge des vivants. Ridée comme une pomme de l'autre année, méchante, jalouse, avare d'une avarice tenant du phénomène, courbée en deux comme si elle eût été cassée aux reins par l'éternel mouvement du fer promené sur les toiles, on eût dit qu'elle avait pour l'agonie une sorte d'amour monstrueux et cynique. Elle ne parlait jamais que des gens qu'elle avait vus mourir, de toutes les variétés de trépas auxquelles elle avait assisté. Et elle les racontait avec une grande minutie de détails toujours pareils, comme un chasseur raconte ses coups de fusil. Quand Honoré Bontemps entra chez elle, il la trouva préparant de l'eau bleue pour les collerettes des villageoises. Il dit
« Allons, bonsoir, ça a dit comme vous voulez, la mère à paix. »
Elle tourna vers lui la tête.
« tout de même, et de votre part ?»« Oh, de ma part, ça va ta volonté, mais c'est ma mère qui ne va point. »«
Votre mère ?»«
Oui, ma mère. » »« Qu'est qu'elle a, votre mère ?»« À là qu'elle va tourner de l'œil ?»
La vieille femme retira ses mains de l'eau dont les gouttes bleuâtres et transparentes lui glissaient jusqu'au bout des doigts pour retomber dans le baquet. Elle demanda avec une sympathie subite.
« Elle est si bas que ça ?»« Le médecin dit qu'elle passera point à la relever. »«
Ah, pour sûr qu'elle est bas, alors ?» Honoré hésita. Il lui fallait quelques préambules pour la proposition qu'il préparait. Mais comme il ne trouvait rien, il se décida tout d'un coup.
« Comment que vous me prendrez pour la garder jusqu'au bout ?»« Vous savez que je suis point riche. Je peux seulement me payer une servante. »« C'est bien ça qu'il a mise là, ma pauvre mère. Trop de délugement, trop de fatigue. À travailler comme 10, nonobstant ses 92. » On n'en fait plus de cette graine-là. »
La rapée répliqua gravement.
« Il y a deux prix. 40 sous le jour et 3 francs la nuit pour les riches, 20 sous le jour et 40 la nuit pour les autres. Vous me donnerez 20 et 40. »
Mais le paysan réfléchissait. Il la connaissait bien, sa mère. Il savait comme elle était tenace, vigoureuse, résistante. Ça pouvait durer 8 jours, malgré l'avis du médecin. Il dit résolument.
« Non, j'aime bien que vous me fassiez un prix, là. Un prix pour jusqu'au bout. Je courrons la chance de part et d'autre. Le médecin a dit qu'elle passera tantôt. Si ça se fait, tant mieux pour vous, tant pis pour moi, mais si elle tient jusqu'à demain ou plus longtemps, tant mieux pour moi, tant pis pour vous. »
La garde, surprise, regardait l'homme. Elle n'avait jamais traité un trépas à forfait. Elle hésitait, tentée par l'idée d'une chance à courir. Puis elle soupçonna qu'on voulait la jouer.
« Je peux rien dire tant que j'aurais point vu votre mai, » répondit-elle. « Venez-y, laver. »
Elle essuya ses mains et le suivit aussitôt. En route, ils ne parlèrent point. Elle allait d'un pied pressé, tandis qu'il allongeait ses grandes jambes comme s'il devait à chaque pas traverser un ruisseau. Les vaches couchées dans les champs, accablées par la chaleur, levaient lourdement la tête et poussaient un faible meuglement vers ces deux gens qui passaient pour leur demander de l'herbe fraîche. En approchant de sa maison, Honoré Bontemps murmura
« Si c'était fini tout de même !»
Et le désir inconscient qu'il en avait se manifesta dans le son de sa voix. Mais la vieille n'était point morte. Elle demeurait sur le dos, en son grabat, les mains sur la couverture d'indienne violette, des mains affreusement maigres, nouées, pareilles à des bêtes étranges, à des crabes, et fermées par les rhumatismes, les fatigues, les besognes presque séculaires qu'elle avait accomplies. La rapet s'approcha du lit et considéra la mourante. Elle lui tâta le pouls, lui palpa la poitrine, l'écouta respirer, la questionna pour l'entendre parler, puis l'ayant encore longtemps contemplée, elle sortit, suivie d'Honoré. Son opinion était assise. La vieille n'irait pas à la nuit. Il demanda « Eh ben ?» La garde répondit « Eh ben, ça durera deux jours, peut-être trois. Vous me donnerez 6 francs, tout compris. » Il s'écria « 6 francs ? 6 francs ? Avez-vous perdu le sens ? Mais je vous dis qu'elle en a pour 5 ou 6 heures, pas plus. » Et ils discutèrent longtemps, acharnés tous deux. Comme la garde allait se retirer, comme le temps passait, comme son blé ne se rentrerait pas tout seul, à la fin, il consentit. « Eh ben, c'est dit. 6 francs, tout compris, jusqu'à la levée du corps. »« C'est dit, 6 francs. » Et il s'en alla à longs pas vers son blé couché sur le sol sous le lourd soleil qui mûrit les moissons. La garde rentra dans la maison. Elle avait apporté de l'ouvrage, car auprès des mourants et des morts, elle travaillait sans relâche, tantôt pour elle, tantôt pour la famille qui l'employait à cette double besogne moyennant un supplément de salaire. Tout à coup, elle demanda « Vous êtes-vous administré au moins, la mes bon temps ?» La paysanne fit non de la tête, et la rapet, qui était dévote, se leva avec vivacité. « Seigneur Dieu, c'est-il possible ? Je vois qu'il y a rien, monsieur le curé. » Et elle se précipita vers le presbytère si vite que les gamins sur la place, la voyant trotter ainsi, crurent un malheur arrivé. Le prêtre s'en vint aussitôt en surplis, précédé de l'enfant de cœur qui sonnait une clochette pour annoncer le passage de Dieu dans la campagne brûlante et calme. Des hommes, qui travaillaient au loin, ôtaient leurs grands chapeaux et demeuraient immobiles en attendant que le blanc vêtement eût disparu derrière une ferme. Les femmes qui ramassaient les gerbes se redressaient pour faire le signe de la croix. Des poules noires effrayées fuyaient le long des fossés en se balançant sur leurs pattes jusqu'au trou bien connu d'elles où elles disparaissaient brusquement. Un poulain, attaché dans un pré, prit peur à la vue du surplis et se mit à tourner en rond au bout de sa corde en lançant des ruades. L'enfant de cœur en jupe rouge allait vite. Et le prêtre, la tête inclinée sur une épaule et coiffée de sa barrette carrée, le suivait en murmurant des prières. Et la rapet venait derrière, toute penchée, pliée en deux, comme pour se prosterner en marchant et les mains jointes comme à l'église. Honoré, de loin, les vit passer. Il demanda « Où ce qui va notre curé ?» Son valet, plus subtil, répondit « Il porte le bon Dieu à ta mère, pardi !» Le paysan ne s'étonna pas. « Ça se peut ben, tout de même !» Et il se remit au travail. La mère Bontemps se confessa, reçut l'absolution, communia, et le prêtre s'en revint, laissant seules les deux femmes dans la chaumière étouffante. Alors la rapet commença à considérer la mourante en se demandant si cela durerait longtemps. Le jour baissait, l'air plus frais entrait par souffle plus vif, faisait voltiger contre le mur une image d'épinal tenue par deux épingles. Les petits rideaux de la fenêtre, jadis blancs, jaunes maintenant et couverts de taches de mouche, avaient l'air de s'envoler, de se débattre, de vouloir partir, comme l'âme de la vieille. Elle, immobile, les yeux ouverts, semblait attendre avec indifférence la mort si proche qui tardait à venir. Son haleine courte sifflait un peu dans sa gorge serrée. Elle s'arrêterait tout à l'heure. Et il y aurait sur la terre une femme de moins que personne ne regretterait. À la nuit tombante, Honoré rentra. S'étant approché du lit, il vit que sa mère vivait encore et il demanda « Ça va-t-il ?» comme il faisait autrefois, quand elle était indisposée. Puis il renvoya la rapet en lui recommandant « Demain à 5 heures, sans faute. » Elle répondit « Demain à 5 heures. » Elle arriva, en effet, au jour levant. Honoré, avant de se rendre aux terres, mangeait sa soupe qu'il avait faite lui-même. La garde demanda « Eh ben, votre mai, a-t-elle passé ?» Il répondit avec un pli malin au coin des yeux. « Elle va plutôt mieux. » Et il s'en alla. La rapet, saisie d'inquiétude, s'approcha de l'agonisante qui demeurait dans le même état, oppressée et impassible,
l'œil ouvert et les mains crispées sur sa couverture. Et la garde comprit que cela pouvait durer 2 jours, 4 jours, 8 jours ainsi, et une épouvante étreignit son cœur d'avare, tandis qu'une colère furieuse la soulevait contre ce finaud qu'il avait joué et contre cette femme qui ne mourait pas. Elle se mit au travail néanmoins et attendit, le regard fixé sur la face ridée de la mère Bontemps. Honoré revint pour déjeuner. Il semblait content, presque goguenard. Puis il repartit. Il rentrait son blé, décidément, dans des conditions excellentes. La Rapet s'exaspérait. Chaque minute écoulée lui semblait maintenant du temps volé, de l'argent volé. Elle avait envie, une envie folle, de prendre par le cou cette vieille bourrique, cette vieille têtue, cette vieille obstinée, et d'arrêter en serrant un peu ce petit souffle rapide qui lui volait son temps et son argent. Puis elle réfléchit au danger, et d'autres idées lui passant par la tête, elle se rapprocha du lit. Elle demanda « Vous avez-t-il déjà vu le diable ?» La mère Bontemps murmura « Non. » Alors la garde se mit à causer. Elle lui contait des histoires pour terroriser son âme débile de mourante. Quelques minutes avant qu'on expirât, le diable apparaissait, disait-elle, à tous les agonisants. Il avait un balai à la main, une marmite sur la tête, et il poussait de grands cris. Quand on l'avait vu, c'était fini, on n'en avait plus que pour peu d'instants. Et elle énumérait tous ceux à qui le diable était apparu devant elle cette année-là. Joséphine Loisel, Eulalie Ratier, Sophie Padagno, Séraphine Grospied. La mère Bontemps, émue enfin, s'agitait, remuait les mains, essayait de tourner la tête pour regarder au fond de la chambre. Soudain, la Rapet disparut au pied du lit. Dans l'armoire, elle prit un drap et s'enveloppa dedans. Elle se coiffa de la marmite, dont les 3 pieds courts et courbés se dressaient ainsi que 3 cornes. Elle saisit un balai de sa main droite et de la main gauche un seau de fer blanc qu'elle jeta brusquement en l'air pour qu'il retombât avec bruit. Il fit en heurtant le sol un fracas épouvantable. Alors, grimpée sur une chaise, la garde souleva le rideau qui pendait au bout du lit et elle apparut, gesticulant, poussant des clameurs aiguës au fond du pot de fer qui lui cachait la face et menaçant de son balai comme un diable de guignol la vieille paysanne à bout de vie. Éperdue, le regard fou, la mourante fit un effort surhumain pour se soulever et s'enfuir. Elle sortit même de sa couche ses épaules et sa poitrine. Puis elle retomba avec un grand soupir. C'était fini. Et la Rapet, tranquillement, remit en place tous les objets, le balai au coin de l'armoire, le drap dedans, la marmite sur le foyer, le seau sur la planche et la chaise contre le mur. Puis, avec les gestes professionnels, elle ferma les yeux énormes de la morte, posa sur le lit une assiette, versa dedans l'eau du bénitier, y trempa le buis cloué sur la commode, et s'agenouillant, se mit à réciter avec ferveur les prières des trépassés qu'elle savait par cœur, par métier. Et quand Honoré rentra le soir venu, il la trouva priant, et il calcula tout de suite qu'elle gagnait encore 20 sous sur lui, car elle n'avait passé que 3 jours et une nuit, ce qui faisait en tout 5 francs, au lieu de 6 qu'il lui devait. Fin du diable. Les rois du Horla. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Nav Prusa, Le Horla, par Guy de Maupassant. Les rois. Ah, dit le capitaine comte de Garance, je crois bien que je me le rappelle, ce souper des rois, pendant la guerre. J'étais alors maréchal des logis de hussards et depuis 15 jours rôdant en éclaireur en face d'une avant-garde allemande. La veille, nous avions sabré quelques hulans et perdu 3 hommes, dont ce pauvre petit Rodeville. Vous vous rappelez bien, Joseph de Rodeville. Or, ce jour-là, mon capitaine m'ordonna de prendre 10 cavaliers et d'aller occuper et de garder toute la nuit le village de Porterin, où l'on s'était battu 5 fois en 3 semaines. Il ne restait pas 20 maisons debout, ni 12 habitants dans ce guépier. Je pris donc 10 cavaliers et je partis vers 4 heures. À 5 heures, en pleine nuit, nous atteignîmes les premiers murs de Porterin. Je fis halte et j'ordonnai à Marchat, vous savez bien Pierre de Marchat, qui a épousé depuis la petite Martel-Auvelin, la fille du marquis de Martel-Auvelin, d'entrer tout seul dans le village et de m'apporter des nouvelles. Je n'avais choisi que des volontaires, tous de bonne famille. Ça fait plaisir dans le service de ne pas tutoyer des mufles. Ce Marchat était dégourdi comme pas un, fin comme un renard et souple comme un serpent. Il savait éventer des Prussiens ainsi qu'un chien évente un lièvre, trouver des vivres là où nous serions morts de faim sans lui. Et il obtenait des renseignements de tout le monde. Des renseignements toujours sûrs, avec une adresse inimaginable. Il revint au bout de 10 minutes. « Ça va bien, » dit-il. « Aucun Prussien n'a passé par ici depuis 3 jours. Il est sinistre, ce village. J'ai causé avec une bonne sœur qui garde 4 ou 5 malades dans un couvent abandonné. » J'ordonnai d'aller de l'avant et nous pénétrâmes dans la rue principale.
On apercevait vaguement, à droite, à gauche, des murs sans toit, à peine visibles dans la nuit profonde. De place en place, une lumière brillait derrière une vitre. Une famille était restée pour garder sa demeure à peu près debout, une famille de braves ou de pauvres. La pluie commençait à tomber, une pluie menue, glacée, qui nous gelait avant de nous avoir mouillés, rien qu'en touchant les manteaux. Les chevaux trébuchaient sur des pierres, sur des poutres, sur des meubles. Marcha nous guidait à pied, devant nous et traînant sa bête par la bride. « Où nous mènes-tu ? » lui demandai-je. Il répondit « J'ai un gîte, un bon. » Et il s'arrêta bientôt devant une petite maison bourgeoise demeurée entière, bien close, bâtie sur la rue avec un jardin derrière. Au moyen d'un gros caillou ramassé près de la grille, Marcha fit sauter la serrure, puis il gravit le perron, défonça la porte d'entrée à coups de pied et à coups d'épaule, alluma un bout de bougie qu'il avait toujours en poche, et nous précéda dans un bon et confortable logis de particuliers riches, en nous guidant avec une assurance admirable, comme s'il avait vécu dans cette maison qu'il voyait pour la première fois. Deux hommes restaient dehors garder nos chevaux. Marcha dit au gros Ponderel qu'il suivait « Les écuries doivent être à gauche, j'ai vu ça en entrant. Va donc y loger les bêtes dont nous n'avons pas besoin. » Puis, se tournant vers moi, « Donne des ordres, sacrebleu !» Il m'étonnait toujours, ce gaillard-là. Je répondis en riant « Je vais placer mes sentinelles aux abords du pays, je te retrouverai ici. » Il demanda « Combien prends-tu d'hommes ?»« 5, les autres les relèveront à 10 heures du soir. » « Bon, tu m'en laisses 4 pour faire les provisions, la cuisine et mettre la table. Moi, je trouverai la cachette au vin. » Et je m'en allais reconnaître les rues désertes jusqu'à la sortie sur la plaine pour y placer mes factionnaires. Une demi-heure plus tard, j'étais de retour. Je trouvais Marcha étendu dans un grand fauteuil Voltaire, dont il avait ôté la housse, par amour du luxe, disait-il. Il se chauffait les pieds au feu en fumant un cigare excellent dont le parfum emplissait la pièce. Il était seul, les coudes sur les bras du siège, la tête entre les épaules, les joues roses, l'œil brillant, l'air enchanté. Dans la pièce voisine, j'entendais un bruit de vaisselle. Marcha me dit, en souriant d'une façon béate, « Ça va, j'ai trouvé le Bordeaux dans le poulailler, le champagne sous les marches du perron, l'eau de vie, 50 bouteilles de vraie fine, dans le potager, sous un poirier qui, vu à la lanterne, ne m'a pas semblé droit. Comme solide, nous avons 2 poules, une oie, un canard, 3 pigeons et un merle, cueilli dans une cage, rien que de la plume, comme tu vois. Tout ça cuit en ce moment. Ce pays est excellent. » Je m'étais assis en face de lui. La flamme de la cheminée me grillait le nez et les joues. « Où as-tu trouvé ce bois-là » demandai-je. Il murmura. « Bois magnifique. Voiture de maître, coupée. C'est la peinture qui donne cette flambée. Un punch d'essence et de vernis. Bonne maison. » Je riais tant je le trouvais drôle, l'animal. Il reprit. « Dire que c'est le jour des rois. J'ai fait mettre une fève dans l'oie. Mais pas de reine, c'est embêtant, ça. » Je répétais comme un écho. « C'est embêtant, mais que veux-tu que j'y fasse, moi ?»« Et que tu en trouves, parbleu. »« De quoi ?»« Mais des femmes. »« Des femmes ? Tu es fou ?»« J'ai bien trouvé l'eau de vie sous un poirier, moi, et le champagne sous les marches du perron. Et rien ne pouvait me guider encore. Tandis que pour toi, une jupe, c'est un indice certain. Cherche, mon vieux. » Il avait l'air si grave, si sérieux, si convaincu, que je ne savais plus s'il plaisantait. Je répondis. « Voyons, Marcha, tu blagues. Je ne blague jamais dans le service. Mais où diable veux-tu que j'en trouve des femmes ?»« Où tu voudras. Il doit en rester 2 ou 3 dans le pays, des niches et rapportes. » Je me levai. Il faisait trop chaud devant ce feu. Marcha reprit. « Veux-tu une idée ?»« Oui. Va trouver le curé. »« Le curé, pourquoi faire ?» Invite-le à souper et prie-le d'amener une femme. Le curé, une femme. Marcha reprit avec une extraordinaire gravité. Je ne ris pas. Va trouver le curé, raconte-lui notre situation. Il doit s'embêter affreusement, il viendra. Mais dis-lui qu'il nous faut une femme au minimum. Une femme comme il faut, bien entendu, puisque nous sommes tous des hommes du monde. Il doit connaître ses paroissiennes sur le bout du doigt. S'il y en a une possible pour nous, et si tu t'y prends bien, il te l'indiquera. « Voyons, Marcha, à quoi penses-tu ? » ?»« Mon cher Garance, tu peux faire ça très bien. Ce serait même très drôle. Nous savons vivre, parbleu, et nous serons d'une distinction parfaite, d'un chic extrême. Nomme-nous à l'abbé, fais-le rire, attendris-le, séduis-le et décide-le. Non, c'est impossible. » Il rapprocha son fauteuil et, comme il connaissait mes côtés faibles, le gredin reprit. « Songe donc comme ce serait crâne à faire et amusant à raconter. » On en parlerait dans toute l'armée.
Ça te fera une rude réputation. »
J'hésitais, tenté par l'aventure. Il insista.
« Allons, mon petit Garance, tu es chef de détachement. Toi seul peux aller trouver le chef de l'église dans ce pays.
Je t'en prie, vas-y. Je raconterai la chose en vers dans la revue des deux mondes après la guerre, je te le promets.
Tu dois bien ça à tes hommes. Tu les fais assez marcher depuis un mois. »
Je me levai en demandant.
« Où est le presbytère ?»«
Tu prends la seconde rue à gauche. Au bout, tu trouveras une avenue. Et au bout de l'avenue, l'église. Le presbytère est à côté. »
Je sortais. Il me cria. « Dis-lui le menu pour lui donner faim. »
Je découvris sans peine la petite maison de l'ecclésiastique à côté d'une grande vilaine église de briques. Je frappai à coups de poing dans la porte, qui n'avait ni sonnette ni marteau, et une voix forte demanda de l'intérieur.
« Qui va là ?»
Je répondis. « Maréchal des logis de hussards. » J'entendis un bruit de verrou et de clé tourner, et je me trouvai en face d'un grand prêtre à gros ventre, avec une poitrine de lutteur, des mains formidables sortant de manches retroussées, un teint rouge et un air brave homme. Je fis le salut militaire.
Bonjour, monsieur le curé.
Il avait craint une surprise, une embûche de rôdeurs, et il sourit en répondant « Bonjour, mon ami, entrez. » Je le suivis dans une petite chambre à pavés rouges où brûlait un maigre feu, bien différent du brasier de Marchat. Il me montra une chaise et puis me dit « Qui est-il pour votre service ?»«
Monsieur l'abbé, permettez-moi d'abord de me présenter. » Et je lui tendis ma carte.
Il la reçut et lut à mi-voix « Le comte de Garance. » Je repris « Nous sommes ici 11, monsieur l'abbé, 5 en grand garde et 6 installés chez un habitant inconnu. Ces 6-là se nomment Garance, ici présent, Pierre de Marchat, Ludovic de Pondrel, le baron d'Étrailly, Karl Massoligny, le fils du peintre, et Joseph Herbon, un jeune musicien. Je viens en leur nom et au mien vous prier de nous faire l'honneur de souper avec nous. C'est un souper des rois, monsieur le curé, et nous voudrions le rendre un peu gai. »
Le prêtre souriait. Il murmura. « Il me semble que ce n'est guère l'occasion de s'amuser. »
Je répondis. « Nous nous battons tous les jours, monsieur. 14 de nos camarades sont morts depuis un mois et 3 sont restés par terre hier encore. C'est la guerre. Nous jouons notre vie à tout instant. N'avons-nous pas le droit de la jouer gaiement ? Nous sommes français, nous aimons rire, nous savons rire partout. Nos pères riaient bien sur l'échafaud. Ce soir, nous voudrions nous dégourdir un peu en jouant comme il faut, et non pas en soudard, vous me comprenez. Avons-nous tort ? »
Il répondit vivement. « Vous avez raison, mon ami, et j'accepte avec grand plaisir votre invitation. »
Il cria. « Hermance !»
Une vieille paysanne, tordue, ridée, horrible, apparut et demanda.
« Qu'est-ce qu'il y a ?»«
Je ne dîne pas ici, ma fille. »
« Où que vous dînez donc ?»«
Avec messieurs les hussards. »
J'eus envie de dire « Amenez votre bonne, pour voir la tête de Marchat. » Mais je n'osais point.
Je repris. « Parmi vos paroissiens restés dans le village, envoyez-vous quelqu'un ou quelqu'une que je puisse inviter aussi ?»
Il hésita, chercha et déclara « Non, personne. »
J'insistai.
« Personne ? Voyons, monsieur le curé, cherchez. Ce serait très galant d'avoir des dames. Je m'entends des ménages. » Est-ce que je sais, moi, le boulanger avec sa femme, l'épicier, l'horloger, le cordonnier, le pharmacien avec la pharmacienne? Nous avons un bon repas, du vin, et serions enchantés de laisser un bon souvenir aux gens d'ici.
Le curé médita longtemps encore, puis prononça avec résolution. Non, personne.
Je me mis à rire.
Sacristi, monsieur le curé, c'est ennuyeux de n'avoir pas une reine, car nous avons une fève. Voyons, cherchez. « Il n'y a pas un maire marié, un adjoint marié, un conseiller municipal marié, un instituteur marié ?»«
Non, toutes les dames sont parties. »«
Quoi, il n'y a pas dans tout le pays une brave bourgeoise avec son bourgeois de mari à qui nous pourrions faire ce plaisir ? Car ce serait un plaisir, pour eux, un grand, dans les circonstances présentes. »
Mais tout à coup, le curé se mit à rire d'un rire violent qui le secouait tout entier. Et il criait
« Ah, j'ai votre affaire, Jésus-Marie, j'ai votre affaire. Ah, 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 nous allons rire, mes enfants, nous allons rire, et elles seront bien contentes, allez, bien contentes. Ah, 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 où gîtez-vous »
J'expliquais la maison en la décrivant. Il comprit.
« Très bien, c'est la propriété de Monsieur Bertin Lavaille. J'y serai dans une demi-heure avec 4 dames. Ah, 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 4 dames !»
Il sortit avec moi, riant toujours, et me quitta en répétant « Ça va, dans une demi-heure, maison Bertin Lavaille. » Je rentrai vite, très étonné, très intrigué. « Combien de couverts ?» demanda Marchat en m'apercevant.
« 11. Nous sommes 6 hussards, plus monsieur le curé et 4 dames. »
Il fut stupéfait. Je triomphais. Il répétait. « Quatre dames ? Tu dis quatre dames ?»«
Je dis quatre dames. »«
De vraies femmes ?»«
De vraies femmes. » »«
Bigre, mes compliments. » »« Je les accepte. Je les mérite. »
Il quitta son fauteuil, ouvrit la porte et j'aperçus une belle nappe blanche jetée sur une longue table, autour de laquelle trois hussards en tablier bleu disposaient des assiettes et des verres.
« Il y aura les femmes !» cria Marchat. Et les trois hommes se mirent à danser en applaudissant de toute leur force. Tout était prêt. Nous attendions. Nous attendîmes près d'une heure. Une odeur délicieuse de volaille rôtie flottait dans toute la maison. Un coup frappé contre le volet nous souleva tous en même temps. Le gros ponderel courut ouvrir, et au bout d'une minute à peine, une petite bonne sœur apparut dans l'encadrement de la porte. Elle était maigre, ridée, timide, et saluait coup sur coup les quatre hussards effarés qui la regardaient entrer. Derrière elle, un bruit de bâton martelait le pavé du vestibule, et dès qu'elle eut pénétré dans le salon, j'aperçus, l'une suivant l'autre, trois vieilles têtes en bonnet blanc, qui s'en venaient en se balançant avec des mouvements différents, l'une chavirant à droite, tandis que l'autre chavirait à gauche. Et trois bonnes femmes se présentèrent, boitant, traînant la jambe, estropiées par les maladies et déformées par la vieillesse, trois infirmes, hors de service, les trois seuls pensionnaires capables de marcher encore de l'établissement hospitalier que dirigeait la sœur Saint-Benoît. Elle s'était retournée vers ses invalides, pleine de sollicitude pour elle. Puis, voyant mes galons de maréchal des logis, elle me dit « Je vous remercie bien, monsieur l'officier, d'avoir pensé à ces pauvres femmes. Elles ont bien peu de plaisir dans la vie, et c'est pour elles en même temps un grand bonheur et un grand honneur que vous leur faites. » J'aperçus le curé, resté dans l'ombre du couloir et qui riait de tout son cœur. À mon tour, je me mis à rire en regardant surtout la tête de Marchat. Puis, montrant des sièges à la religieuse, « Asseyez-vous, ma sœur. Nous sommes très fiers et très heureux que vous ayez accepté notre modeste invitation. » Elle prit trois chaises contre le mur, les aligna devant le feu, y conduisit ses trois bonnes femmes, les plaça dessus, leur ôta leur canne et leur châle, qu'elle alla déposer dans un coin, puis, désignant la première, une maigre à ventre énorme, une hydropique assurément, « Celle-là est la mère Paumelle, dont le mari s'est tué en tombant d'un toit et dont le fils est mort en Afrique. Elle a 62 ans. » Puis elle désigna la seconde, une grande dont la tête tremblait sans cesse. « Celle-là est la mère Jean-Jean, âgée de 67 ans. Elle n'y voit plus guère, ayant eu la figure flambée dans un incendie et la jambe droite brûlée à moitié. » Elle nous montra enfin la troisième, une espèce de naine avec des yeux saillants qui roulaient de tous les côtés, ronds et stupides. « C'est la putois, une innocente. » Elle est âgée de 44 ans seulement. J'avais salué les trois femmes, comme si on m'eût présenté à des altesses royales, et me tournant vers le curé, « Vous êtes, monsieur l'abbé, un homme précieux, à qui nous devrons tous ici de la reconnaissance. » Tout le monde riait, en effet, hormis Marchat, qui semblait furieux. « Notre sœur Saint-Benoît est servie !» cria tout à coup Karl Massouligny. Je la fis passer devant avec le curé, puis je soulevai la mère Paumelle, dont je pris le bras, et que je traînais dans la pièce voisine, non sans peine, car son ventre ballonné semblait plus pesant que du fer. Le gros ponderel enleva la mère Jean-Jean, qui gémissait pour avoir sa béquille, et le petit Joseph Herbon dirigea l'idiote, la putois, vers la salle à manger pleine d'odeurs de viande. Dès que nous fûmes en face de nos assiettes, la sœur tapa trois coups dans ses mains, et les femmes firent, avec la précision de soldats qui présentent les armes, un grand signe de croix rapide. Puis le prêtre prononça lentement les paroles latines du Bénédicité. On s'assit, et les deux poules parurent, apportées par Marchat qui voulait servir pour ne point assister en convive à ce repas ridicule. Mais je criai « Vite ! Le champagne !» Un bouchon sauta avec un bruit de pistolet qu'on décharge, et malgré la résistance du curé et de la bonne sœur, les trois hussards assis à côté des trois infirmes leur versèrent de force dans la bouche leurs trois verres pleins. Massouligny, qui avait la faculté d'être chez lui partout et à l'aise avec tout le monde, faisait la cour à la mère Paumelle de la façon la plus drôle. L'hydropique, dont l'humeur était restée gaie malgré ses malheurs, lui répondait en badinant avec une voix de fausset qui semblait factice, et elle riait si fort des plaisanteries de son voisin que son gros ventre semblait prêt à monter et à rouler sur la table. Le petit Herbon avait entrepris sérieusement de griser l'idiote, et le baron d'Étrailly, qui n'avait pas l'esprit alerte, interrogeait la Jean-Jean sur la vie, les habitudes et le règlement de l'hospice. La religieuse effarée criait à Massouligny. « Oh, oh, vous allez la rendre malade. Ne la faites pas rire comme ça, je vous en prie, monsieur. Oh, monsieur !» Puis elle se levait et se jetait sur Herbon pour lui arracher des mains un verre plein qu'il vidait prestement entre les lèvres de la putois.
Et le curé riait à se tordre, répétait à la sœur « Laissez donc pour une fois, ça ne leur fait pas de mal, laissez donc !» Après les deux poules, on avait mangé le canard, flanqué des trois pigeons et du merle, et l'oie parut, fumante, dorée, répandant une odeur chaude de viande rissolée et grasse. La pommelle, qui s'animait, battit des mains. La Jean-Jean cessa de répondre aux questions nombreuses du baron, et la putois poussa des grognements de joie, moitié cris et moitié soupirs, comme font les petits-enfants à qui on montre des bonbons. « Permettez-vous, dit le curé, que je me charge de cet animal. Je m'entends comme personne à ces opérations-là. » « Mais certainement, monsieur l'abbé. » Et la sœur dit « Si on ouvrait un peu la fenêtre, elles ont trop chaud. Je suis sûre qu'elles seront malades. » Je me tournai vers Marchat. « Ouvre la fenêtre une minute. » Il l'ouvrit et l'air froid du dehors entra, fit vaciller les flammes des bougies et tournoyer la fumée de l'oie dont le prêtre, une serviette au cou, soulevait les ailes avec science. Nous le regardions faire, sans parler maintenant, intéressés par le travail alléchant de ses mains, saisi d'un renouveau d'appétit à la vue de cette grosse bête dorée dont les membres tombaient l'un après l'autre dans la sauce brune au fond du plat. Et tout à coup, au milieu de ce silence gourmand qui nous tenait attentifs, entra par la fenêtre ouverte le bruit lointain d'un coup de feu. Je fus debout si vite que ma chaise roula derrière moi. Et je criai « Tout le monde à cheval! Toi, Marchat, tu vas prendre deux hommes et aller aux nouvelles. Je t'attends ici dans 5 minutes. » Et pendant que les trois cavaliers s'éloignaient au galop dans la nuit, je me mis en selle avec mes deux autres hussards, devant le perron de la villa, tandis que le curé, la sœur et les trois bonnes femmes montraient aux fenêtres leurs têtes effarées. On n'entendait plus rien qu'un aboiement de chien dans la campagne. La pluie avait cessé, il faisait froid, très froid. Et bientôt je distinguai de nouveau le galop d'un cheval, d'un seul cheval, qui revenait. C'était Marchat. Je lui criai « Eh bien !» Il répondit « Rien du tout. François a blessé un vieux paysan qui refusait de répondre au qui-vive, et qui continuait d'avancer malgré l'ordre de passer au large. On la porte d'ailleurs, nous verrons ce que c'est. » J'ordonnai de remettre les chevaux à l'écurie et j'envoyai mes deux soldats au-devant des autres, puis je rentrai dans la maison. Alors le curé, Marchat et moi, nous descendîmes un matelas dans le salon pour y déposer le blessé. La sœur, déchirant une serviette, se mit à faire de la charpie, tandis que les trois femmes éperdues restaient assises dans un coin. Bientôt je distinguai un bruit de sabre traîner sur la route. Je pris une bougie pour éclairer les hommes qui revenaient, et ils parurent, portant cette chose inerte, molle, longue et sinistre que devient un corps humain quand la vie ne le soutient plus. On déposa le blessé sur le matelas préparé pour lui, et je vis du premier coup d'œil que c'était un moribond. Il râlait et crachait du sang, qui coulait des coins de ses lèvres, chassé de sa bouche à chacun de ses hoquets. L'homme en était couvert. Ses joues, sa barbe, ses cheveux, son cou, ses vêtements semblaient en avoir été frottés, avoir été baignés dans une cuve rouge. Et ce sang s'était figé sur lui, était devenu terne, mêlé de boue, horrible à voir. Le vieillard, enveloppé dans une grande limousine de berger, entr'ouvrait par moments ses yeux mornes, éteints, sans pensée, qui paraissaient stupides d'étonnement, comme ceux des bêtes que le chasseur tue et qui le regardent tomber à ses pieds aux trois quarts mortes déjà, abrutis par la surprise et par l'épouvante. Le curé s'écria « Oh, c'est le père Placide, le vieux pasteur des moulins. Il est sourd, le pauvre, n'a rien entendu. Oh, mon Dieu, vous avez tué ce malheureux !» La sœur avait écarté la blouse et la chemise et regardait au milieu de la poitrine un petit trou violet qui ne saignait plus. « Il n'y a rien à faire, » dit-elle. Le berger, haletant affreusement, crachait toujours du sang avec chacun de ses derniers souffles, et on entendait dans sa gorge jusqu'au fond de ses poumons un gargouillement sinistre et continu. Le curé, debout au-dessus de lui, leva sa main droite, décrivit le signe de la croix et prononça d'une voix lente et solennelle les paroles latines qui lavent les âmes. Avant qu'il les eût achevées, le vieillard fut agité d'une courte secousse, comme si quelque chose venait de se briser en lui. Il ne respirait plus. Il était mort. M'étant retourné, je vis un spectacle plus effrayant que l'agonie de ce misérable. Les trois vieilles, debout, serrées l'une contre l'autre, hideuses, grimaçaient d'angoisse et d'horreur. Je m'approchai d'elles et elles se mirent à pousser des cris aigus en essayant de se sauver, comme si j'allais les tuer aussi. La Jean-Jean, que sa jambe brûlée ne portait plus, tomba de tout son long par terre. La sœur Saint-Benoît, abandonnant le mort, courut vers ses infirmes et sans un mot pour moi, sans un regard, les couvrit de leur châle, leur donna leur béquille, les poussa vers la porte, les fit sortir et disparut avec elles dans la nuit profonde, si noire. Je compris que je ne pouvais même les faire accompagner par un hussard car le seul bruit du sabre les eut affolés. Le curé regardait toujours le mort. S'étant enfin retourné vers moi, « Ah, quelle vilaine chose !» dit-il. Fin des rois. Au bois, du Horla. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Nave Prusa, le Horla, par Guy de Maupassant. Au bois. Le maire allait se mettre à table pour déjeuner quand on le prévint que le garde champêtre l'attendait à la mairie avec deux prisonniers. Il s'y rendit aussitôt et il aperçut en effet son garde champêtre, le père Hochedur, debout et surveillant d'un air sévère un couple de bourgeois mûrs. L'homme, un gros père à nez rouge et à cheveux blancs, semblait accablé, tandis que la femme, une petite mère endimanchée, très ronde, très grasse, aux joues luisantes, regardait d'un œil de défi l'agent de l'autorité qui les avait captivés. Le maire demanda. « Qu'est-ce que c'est, père Hochedur ?» Le garde champêtre fit sa déposition. Il était sorti le matin, à l'heure ordinaire, pour accomplir sa tournée du côté des bois Champilloux jusqu'à la frontière d'Argenteuil. Il n'avait rien remarqué d'insolite dans la campagne, sinon qu'il faisait beau temps et que les blés allaient bien, quand le fils au Bredel, qui binait sa vigne, avait crié. « Hé, père Hochedur, allez voir au bord du bois, au premier taillis. Vous y trouverez un couple de pigeons qui ont bien 130 ans à eux deux. » Il était parti dans la direction indiquée. Il était entré dans le fourré et il avait entendu des paroles et des soupirs qui lui firent supposer un flagrant délit de mauvaise mœurs. Donc, avançant sur ses genoux et sur ses mains comme pour surprendre un braconnier, il avait appréhendé le couple présent au moment où il s'abandonnait à son instinct. Le maire, stupéfait, considéra les coupables. L'homme comptait bien 60 ans et la femme au moins 55. Il se mit à les interroger en commençant par le mâle qui répondait d'une voix si faible qu'on l'entendait à peine. « Votre nom ?» Nicolas Borin. Votre profession? Mercier, rue des Martyrs, à Paris. Qu'est-ce que vous faisiez dans ce bois? Le mercier demeura muet, les yeux baissés sur son gros ventre, les mains à plat sur ses cuisses. Le maire reprit. Niez-vous ce qu'affirme l'agent de l'autorité municipale? Non, monsieur. Alors vous avouez?
Oui, monsieur.
Qu'avez-vous à dire pour votre défense?
Rien, monsieur.
Où avez-vous rencontré votre complice?
C'est ma femme, monsieur.
« Votre femme ?»«
Oui, monsieur. »«
Alors vous ne vivez donc pas ensemble, à Paris ?»«
Pardon, monsieur, nous vivons ensemble. »«
Mais alors vous êtes fou, tout à fait fou, mon cher monsieur, de venir vous faire pincer ainsi en plein champ à 10 heures du matin. »
Le mercier semblait prêt à pleurer de honte. Il murmura.
« C'est elle qui a voulu ça. Je lui disais bien que c'était stupide, mais quand une femme a quelque chose dans la tête, vous savez, elle l'a pas ailleurs. »
Le maire, qui aimait l'esprit gaulois, sourit et répliqua. « Dans votre cas, c'est le contraire qui aurait dû avoir lieu. Vous ne seriez pas ici si elle ne l'avait eu que dans la tête. »
Alors une colère saisit Monsieur Borin et se tournant vers sa femme. « Vois-tu où tu nous as menés avec ta poésie? Hein? Y sommes nous? Et nous irons devant les tribunaux maintenant, à notre âge, pour attentat aux mœurs. Et il nous faudra fermer boutique, vendre la clientèle et changer de quartier. Y sommes nous? »
Madame Borin se leva et, sans regarder son mari, elle s'expliqua sans embarras, sans vaine pudeur, presque sans hésitation.
« Mon Dieu, monsieur le maire, je sais bien que nous sommes ridicules. Voulez-vous me permettre de plaider ma cause comme un avocat ou mieux, comme une pauvre femme? Et j'espère que vous voudrez bien nous renvoyer chez nous et nous épargner la honte des poursuites. » Autrefois, quand j'étais jeune, j'ai fait la connaissance de monsieur Borin dans ce pays-ci un dimanche. Il était employé dans un magasin de mercerie. Moi, j'étais demoiselle dans un magasin de confection. Je me rappelle de ça comme d'hier. Je venais passer les dimanches ici de temps en temps avec une amie, Rose Lévesque, avec qui j'habitais rue Pigalle. Rose avait un bon ami et moi pas. C'est lui qui nous conduisait ici. Un samedi, il m'annonça en riant qu'il amènerait un camarade le lendemain. Je compris bien ce qu'il voulait, mais je répondis que c'était inutile. J'étais sage, monsieur. Le lendemain, donc, nous avons trouvé au chemin de fer monsieur Borin. Il était bien de sa personne à cette époque-là, mais j'étais décidée à ne pas céder et je ne cédais pas non plus. Nous voici donc arrivés à Beson. Il faisait un temps superbe, de ces temps qui vous chatouillent le cœur. Moi, quand il fait beau, aussi bien maintenant qu'autrefois, je deviens bête à pleurer, et quand je suis à la campagne, je perds la tête. La verdure, les oiseaux qui chantent, les blés qui remuent au vent, les hirondelles qui vont si vite, l'odeur de l'herbe, les coquelicots, les marguerites, tout ça me rend folle. C'est comme le champagne quand on n'en a pas l'habitude. Donc, il faisait un temps superbe et doux et clair, qui vous entrait dans le corps par les yeux en regardant et par la bouche en respirant. Rose et Simon s'embrassaient toutes les minutes. Ça me faisait quelque chose de les voir. Monsieur Beaurain et moi, nous marchions derrière eux sans guère parler. Quand on ne se connaît pas, on ne se trouve rien à se dire. Il avait l'air timide, ce garçon, et ça me plaisait de le voir embarrassé. Nous voici arrivés dans le petit bois. Il y faisait frais comme dans un bain et tout le monde s'assit sur l'herbe. Rose et son amie me plaisantaient sur ce que j'avais l'air sévère. Vous comprenez bien que je ne pouvais pas être autrement. Et puis voilà qu'ils recommencent à s'embrasser sans plus se gêner que si nous n'étions pas là. Et puis ils se sont parlé tout bas. Et puis ils se sont levés et ils sont partis dans les feuilles sans rien dire. Jugez quelle sotte figure je faisais, moi, en face de ce garçon que je voyais pour la première fois. Je me sentais tellement confuse de les voir partir ainsi que ça me donna du courage, et je me suis mise à parler. Je lui demandais ce qu'il faisait. Il était commis de mercerie, comme je vous l'ai appris tout à l'heure. Nous causâmes donc quelques instants. Ça l'enhardit, lui, et il voulut prendre des privautés, mais je le remis à sa place, et roide encore. Est-ce pas vrai, monsieur Beaurain ? Monsieur Beaurain, qui regardait ses pieds avec confusion, ne répondit pas. Elle reprit. Alors il a compris que j'étais sage, ce garçon, et il s'est mis à me faire la cour gentiment, en honnête homme. Depuis ce jour, il est revenu tous les dimanches. Il était très amoureux de moi, monsieur. Et moi aussi, je l'aimais beaucoup, mais là, beaucoup. C'est un beau garçon, autrefois. Bref, il m'épousa en septembre, et nous prîmes notre commerce rue des Martyrs. Ce fut dur pendant des années, monsieur. Les affaires n'allaient pas, et nous ne pouvions guère nous payer des parties de campagne. Et puis nous en avions perdu l'habitude. On a autre chose en tête, on pense à la caisse plus qu'aux fleurettes dans le commerce. Nous vieillissions, peu à peu, sans nous en apercevoir, en gens tranquilles qui ne pensent plus guère à l'amour. On ne regrette rien tant qu'on ne s'aperçoit pas que ça vous manque. Et puis, monsieur, les affaires ont mieux été, nous nous sommes rassurés sur l'avenir. Alors voyez-vous, je ne sais pas trop ce qui s'est passé en moi, non, vraiment je ne sais pas. Voilà que je me suis remise à rêver comme une petite pensionnaire. La vue des voiturettes de fleurs qu'on traîne dans les rues me tirait des larmes. L'odeur des violettes venait me chercher à mon fauteuil derrière ma caisse et me faisait battre le cœur. Alors, je me levais et je m'en venais sur le pas de ma porte pour regarder le bleu du ciel entre les toits. Quand on regarde le ciel dans une rue, ça a l'air d'une rivière, d'une longue rivière qui descend sur Paris en se tortillant. Et les hirondelles passent dedans comme des poissons. C'est bête comme tout, ces choses-là, à mon âge. Que voulez-vous, monsieur, quand on a travaillé toute sa vie, il vient un moment où on s'aperçoit qu'on aurait pu faire autre chose. Et alors, on regrette. Oh oui, on regrette. Songez donc que pendant 20 ans, j'aurais pu aller cueillir des baisers dans les bois comme les autres femmes. Je songeais comme c'est bon d'être couché sous les feuilles en aimant quelqu'un. Et j'y pensais tous les jours, toutes les nuits. Je rêvais de clair de lune sur l'eau jusqu'à avoir envie de me noyer. Je n'osais pas parler de ça à Monsieur Beaurain dans les premiers temps. Je savais bien qu'il se moquerait de moi et qu'il me renverrait vendre mon fil et mes aiguilles. Et puis, à vrai dire, Monsieur Beaurain ne me disait plus grand-chose. Mais en me regardant dans ma glace, je comprenais bien aussi que je ne disais plus rien à personne, moi. Donc je me décidai et lui proposai une partie de campagne au pays où nous nous étions connus. Il accepta sans défiance et nous voici arrivés ce matin vers les 9 heures. Moi, je me sentis toute retournée quand je suis entrée dans les blés. Ça ne vieillit pas le cœur des femmes. Et vrai, je ne voyais plus mon mari tel qu'il est, mais bien tel qu'il était autrefois. Ça, je vous le jure, monsieur, vrai de vrai, j'étais grise. Je me mis à l'embrasser. Il en fut plus étonné que si j'avais voulu l'assassiner. Il me répétait « Mais tu es folle! Mais tu es folle ce matin, qu'est-ce qui te prend ?» Je n'écoutais pas, moi, je n'écoutais que mon cœur. Et je le fis entrer dans le bois, et voilà. J'ai dit la vérité, monsieur le maire, toute la vérité. Le maire était un homme d'esprit. Il se leva, sourit et dit « Allez en paix, madame, et ne pêchez plus sous les feuilles. » Fin d'Au bois. Une famille, du Horla. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Nav Prusa, le Horla par Guy de Maupassant. Une famille. J'allais revoir mon ami Simon Radevin, que je n'avais point aperçu depuis 15 ans. Autrefois, c'était mon meilleur ami, l'ami de ma pensée, celui avec qui on passe les longues soirées tranquilles et gaies, celui à qui on dit les choses intimes du cœur, pour qui on trouve en causant doucement des idées rares, fines, ingénieuses, délicates, née de la sympathie même qui excite l'esprit et le met à l'aise. Pendant bien des années, nous ne nous étions guère quittés. Nous avions vécu, voyagé, songé, rêvé ensemble, aimé les mêmes choses d'un même amour, admiré les mêmes livres, compris les mêmes œuvres, frémi des mêmes sensations et si souvent ri des mêmes êtres que nous nous comprenions complètement rien qu'en échangeant un coup d'œil. Puis il s'était marié. Il avait épousé tout à coup une fillette de province venue à Paris pour chercher un fiancé. comment cette petite blondasse maigre aux mains niaises, aux yeux clairs et vides, à la voix fraîche et bête, pareille à 100 000 poupées à marier, avait-elle cueilli ce garçon intelligent et fin? Peut-on comprendre ces choses-là? Il avait sans doute espéré le bonheur, lui. Le bonheur simple, doux et long, entre les bras d'une femme bonne, tendre et fidèle. Et il avait entrevu tout cela dans le regard transparent de cette gamine aux cheveux pâles. Il n'avait pas songé que l'homme actif, vivant et vibrant, se fatigue de tout dès qu'il a saisi la stupide réalité, à moins qu'il ne s'abrutisse au point de ne plus rien comprendre. Comment allais-je le retrouver? Toujours vif, spirituel, rieur et enthousiaste, ou bien endormi par la vie provinciale? Un homme peut changer en 15 ans. Le train s'arrêta dans une petite gare. Comme je descendais de wagon, un gros, très gros homme aux joues rouges, au ventre rebondi, s'élança vers moi les bras ouverts en criant « Georges !» Je l'embrassai, mais je ne l'avais pas reconnu. Puis je murmurai stupéfait « Christy, tu n'as pas maigri !» Il répondit en riant « Que veux-tu? La bonne vie, la bonne table, les bonnes nuits, manger et dormir, voilà mon existence !» Je le contemplai, cherchant dans cette large figure les traits aimés. L'œil seul n'avait point changé, mais je ne retrouvais plus le regard, et je me disais, s'il est vrai que le regard est le reflet de la pensée de cette tête-là n'est plus celle d'autrefois, celle que je connaissais si bien. L'œil brillait pourtant, plein de joie et d'amitié, mais il n'avait plus cette clarté intelligente qui exprime autant que la parole la valeur d'un esprit. Tout à coup, Simon me dit, « Tiens, voici mes deux aînés. » Une fillette de 14 ans, presque femme, et un garçon de 13 ans, vêtu en collégien, s'avancèrent d'un air timide et gauche. Je murmurai « C'est à toi ?» Il répondit en riant « Mais oui. » « Combien en as-tu donc ?»« 5. Encore 3 restés à la maison. » Il avait répondu cela d'un air fier, content, presque triomphant. Et moi, je me sentais saisi d'une pitié profonde, mêlée d'un vague mépris pour ce reproducteur orgueilleux et naïf qui passait ses nuits à faire des enfants entre deux sommes, dans sa maison de province, comme un lapin dans une cage. Je montai dans une voiture qu'il conduisait lui-même, et nous voici partis à travers la ville, triste ville, somnolente et terne où rien ne remuait par les rues, sauf quelques chiens et 2 ou 3 bonnes. De temps en temps, un boutiquier sur sa porte ôtait son chapeau. Simon rendait le salut et nommait l'homme pour me prouver sans doute qu'il connaissait tous les habitants par leur nom. La pensée me vint qu'il songeait à la députation, ce rêve de tous les enterrés de province. On eut vite traversé la cité, et la voiture entra dans un jardin qui avait des prétentions de parc, puis s'arrêta devant une maison à tourelles qui cherchait à passer pour château. « Voilà mon trou, » disait Simon, pour obtenir un compliment. Je répondis « C'est délicieux. » Sur le perron, une dame apparut, parée pour la visite, coiffée pour la visite, avec des phrases prêtes pour la visite. Ce n'était plus la fillette blonde et fade que j'avais vue à l'église 15 ans plus tôt, mais une grosse dame à falbala et à frison, une de ces dames sans âge, sans caractère, sans élégance, sans esprit, sans rien de ce qui constitue une femme. C'était une mère, enfin, une grosse mère banale, la pondeuse, la poulinière humaine, la machine de chair qui procrée sans autre préoccupation dans l'âme que ses enfants et son livre de cuisine. Elle me souhaita la bienvenue et j'entrai dans le vestibule où 3 mioches alignées par rang de taille semblaient placées là pour une revue comme des pompiers devant un maire. Je dis « Ah ah, voici les autres !» Simon radieux les nomma, Jean, Sophie et Gontran. La porte du salon était ouverte. J'y pénétrai et j'aperçus au fond d'un fauteuil quelque chose qui tremblotait. Un homme. Un vieux homme paralysé. Madame Radevin s'avança. « C'est mon grand-père, monsieur. Il a 87 ans. » Puis elle cria dans l'oreille du vieillard trépidant « C'est un ami de Simon, papa !» L'ancêtre fit un effort pour me dire bonjour et il vagit. « Waouh, waouh, waouh !» en agitant sa main. Je répondis « Vous êtes trop aimable, monsieur !» et je tombai sur un siège. Simon venait d'entrer, il riait. « Ah ah, tu as fait la connaissance de bon papa. Il est impayable, ce vieux, c'est la distraction des enfants. Il est gourmand, mon cher, à se faire mourir à tous les repas. Tu ne te figures point ce qu'il mangerait si on le laissait libre. Mais tu verras. Il fait de l'œil au plat sucré comme si c'était des demoiselles. Tu n'as jamais rien rencontré de plus drôle, tu verras tout à l'heure. » Puis on me conduisit dans ma chambre pour faire ma toilette, car l'heure du dîner approchait. J'entendais dans l'escalier un grand piétinement et je me retournais. Tous les enfants me suivaient en procession derrière leur père, sans doute pour me faire honneur. Ma chambre donnait sur la plaine, une plaine sans fin, toute nue, un océan d'herbes, de blés et d'avoine, sans un bouquet d'arbres ni un coteau, image saisissante et triste de la vie qu'on devait mener dans cette maison. Une cloche sonna, c'était pour le dîner. Je descendis. Madame Radevin prit mon bras d'un air cérémonieux et on passa dans la salle à manger. Un domestique roulait le fauteuil du vieux qui, à peine placé devant son assiette, promena sur le dessert un regard avide et curieux, en tournant avec peine d'un plat vers l'autre sa tête branlante. Alors Simon se frotta les mains. « Tu vas t'amuser, » me dit-il. Et tous les enfants, comprenant qu'on allait me donner le spectacle de grand-papa gourmand, se mirent à rire en même temps, tandis que leur mère souriait seulement en haussant les épaules. Radevin se mit à hurler vers le vieillard en formant un porte-voix de ses mains. « Nous avons ce soir de la crème au riz sucré !» La face ridée de l'aïeul s'illumina et il trembla plus fort de haut en bas pour indiquer qu'il avait compris et qu'il était content. Et on commença à dîner. « Regarde, » murmura Simon. Le grand-père n'aimait pas la soupe et refusait d'en manger. On l'y forçait pour sa santé. Et le domestique lui enfonçait de force dans la bouche la cuillère pleine, tandis qu'il soufflait avec énergie pour ne pas avaler le bouillon rejeté ainsi en jet d'eau sur la table et sur ses voisins. Les petits-enfants se tordaient de joie, tandis que leur père, très content, répétait « Est-il drôle, ce vieux ?» Et tout le long du repas, on ne s'occupa que de lui. Il dévorait du regard les plats posés sur la table et de sa main follement agitée essayait de les saisir et de les attirer à lui. On les posait presque à portée pour voir ses efforts éperdus, son élan tremblotant vers eux, l'appel désolé de tout son être, de son œil, de sa bouche, de son nez qui les flairait. Et il bavait d'envie sur sa serviette en poussant des grognements inarticulés et toute la famille se réjouissait de ce supplice odieux et grotesque. Puis on lui servait sur son assiette un tout petit morceau qu'il mangeait avec une gloutonnerie fiévreuse pour avoir plus vite autre chose. Quand arriva le riz sucré, il eut presque une convulsion, il gémissait de désir. Gontran lui cria « Vous avez trop mangé, vous n'en aurez pas » et on fit semblant de ne lui en point donner. Alors il se mit à pleurer. Il pleurait en tremblant plus fort, tandis que tous les enfants riaient. On lui apporta enfin sa part, une toute petite part. Et il fit, en mangeant la première bouchée de l'entremets, un bruit de gorge comique et glouton, et un mouvement du cou pareil à celui des canards qui avalent un morceau trop gros. Puis, quand il eut fini, il se mit à trépigner pour en obtenir encore. Pris de pitié devant la torture de ce tantale attendrissant et ridicule, j'implorai pour lui. « Voyons, donne-lui encore un peu de riz !» Simon répétait « Oh non, mon cher, s'il mangeait trop à son âge, ça pourrait lui faire du mal !» Je me tus, rêvant sur cette parole. Ô morale, ô logique, ô sagesse, à son âge. Donc on le privait du seul plaisir qu'il pouvait encore goûter par souci de sa santé. Sa santé! Qu'en ferait-il, ce débris inerte et tremblotant? On ménageait ses jours, comme on dit. Ses jours? Combien de jours? 10, 20, 50 ou 100? Pourquoi? Pour lui ou pour conserver plus longtemps à la famille le spectacle de sa gourmandise impuissante? Il n'avait plus rien à faire en cette vie, plus rien. Un seul désir lui restait, une seule joie. Pourquoi ne pas lui donner entièrement cette joie dernière? La lui donner jusqu'à ce qu'il en mourût. Puis, après une longue partie de cartes, je montai dans ma chambre pour me coucher. J'étais triste, triste, triste. Et je me mis à ma fenêtre. On n'entendait rien au dehors qu'un très léger, très doux, très joli gazouillement d'oiseau dans un arbre, quelque part. Cet oiseau devait chanter ainsi à voix basse dans la nuit pour bercer sa femelle endormie sur ses œufs. Et je pensais aux 5 enfants de mon pauvre ami qui devaient ronfler maintenant aux côtés de sa vilaine femme. Fin d'une famille.
It's a great time to save big on everything for your next project at Menards. Get free estimates fast on new energy-efficient windows from Jeld-Wen. Choose from vinyl or wood windows and customize the perfect size and unique features for your home. Save big on all Jeld-Wen windows today. View our entire selection of Jeld-Wen windows on Menards.com. Plus, the weekly flyer for other great deals happening now.
Save big money at
Fall into big savings, all in the Kroger app. Get packs of juicy red, green, black, or tri-color variety seedless grapes for $3.99 each. Then get tender boneless chuck roast or steaks for $4.99 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.